OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église de l'Espoir. Bienvenue dans le cours sur le survol de l'Ancien Testament. Et puis, on est rendu dans le livre des Proverbes. Je m'appelle Yannick Étier. Et dans le fond, vous le savez, ceux qui sont ici. Mais évidemment, c'est parce que le cours est disponible aussi sur notre site web. Donc, si vous manquez des leçons, vous pouvez aller vous reprendre. Si vous vous êtes joint à nous cette session-ci, toute la première session est disponible aussi sur le site web. Donc, on est rendu à la deuxième portion de l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez aller prendre la première portion, vous pourrez aller directement sur le site web puis reprendre ça. Vous avez des copies des notes dans l'entrée, juste à côté du piano, en fait, sur la petite table là-bas. Et si vous désirez recevoir, être ajouté à notre liste d'envoi pour recevoir les notes chaque semaine, simplement envoyez un courriel à info@eglisespoir.com et puis demandez d'être ajouté à la liste d'envoi pour le cours sur le survol de l'Ancien Testament. C'est bien? On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va commencer. Père éternel, quel beau livre que le livre des Proverbes, Seigneur. C'est un livre qui parle de sagesse, qui nous parle de toi, qui nous parle de sagesse pratique parce que tu n'es pas un Dieu théorique, tu n'es pas une théorie. Tu es une personne qui entre en relation avec nous, Seigneur. Et tu es quelqu'un qui s'est incarné dans la personne de ton Fils. On a vu le livre des Proverbes en vie, mis en œuvre littéralement à travers la personne de Christ. Toute la sagesse était là, Seigneur. On te demande de nous bénir ensemble ce matin alors qu'on explore ce livre, qu'on se l'approprie, un livre qui est précieux dans l'expérience des chrétiens depuis des milliers d'années. On te demande, Seigneur, de nous aider vraiment à apprendre de ta sagesse. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Je reviens dans un instant. Alors, nous sommes dans la leçon 3, le livre des Proverbes. La semaine dernière, vous avez vu avec Basile les psaumes. Immense. Là, c'est un petit peu plus à portée de main. Le livre des Proverbes est souvent le premier livre qui est intégré dans la discipline des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a 31 chapitres, ça se lit bien, c'est un livre pratique. Donc, il y a bien des chrétiens qui, pendant des années, je l'ai fait pendant des années, à tous les jours vont lire un proverbe. Même si j'ai mon plan de lecture, je lis un proverbe à tous les jours. Puis, il y a quelque chose de très sain dans tout ça parce que, progressivement, on prend de la sagesse. C'est un des très beaux livres où aller avec les enfants. Les enfants retiennent hein, des phrases clés. Je répétais souvent à mes enfants, un peu à la blague, j'étais comme, on fallait faire les bagages, puis là, on devait partir en voyage. Puis chez nous, partir en voyage, c'est une aventure. T'sais, ça nous prend 4 trailers, 3 voitures, mais on est juste 2 chauffeurs. Fait qu'on n'a jamais, on apprend là, tranquillement à voyager léger. Mais je répétais toujours aux enfants une phrase qui venait du Seigneur des Anneaux, « Voyageons légers, allons chasser de l'orque. » Puis, c'est quoi le rapport avec les proverbes? Vous allez voir. Fait que je le répétais souvent ça. Puis mon fils, il a peut-être 5-6 ans, il me dit, « Pa, il est en train de faire quelque chose. » Il se préparait, puis il dit, « Pa, puis il dit, t'as toujours répété ça. » Puis il dit, « C'est resté comme un principe. » C'est vraiment drôle, hein? Ça m'a frappé. Je faisais une citation comme ça, mais comme il avait vu le film, ça frappait son imaginaire, la phrase est restée, puis je pense que mes enfants vont se répéter ça jusqu'à leur mort, quand ils vont être en train de faire des bagages, puis ils vont le répéter à leurs enfants, puis ça va rester dans la famille Étier. Voyageons léger, allons chasser de l'orque. Fait que, mais c'est comme un proverbe. C'est comme un proverbe dans un sens. C'est une sentence, c'est une courte phrase qui se retient bien. Le livre des Proverbes contient des centaines et des centaines de phrases, un peu comme ça, beaucoup plus sage, évidemment. Mais de l'orque, il faut que vous goûtiez ça un jour, de l'orque, Madame Paradis. Mais c'est après le foie, il faut s'habituer au foie avant de goûter de l'orque. Non, l'orque, c'est un personnage imaginaire, c'est un monstre imaginaire dans le monde fantastique. Vous ne goûterez pas de l'orque. D'ailleurs, ça ne doit pas goûter très bon. Le foie doit être définitivement meilleur. Mais revenons au proverbe. Revenons au proverbe. Excusez-moi. Pas me poser des questions sur le Seigneur des Anneaux, c'est ça que ça donne. Le livre des Proverbes est précieux pour grandir en sagesse. Puis je trouve que le livre des Proverbes, une des beautés aussi du livre des Proverbes, c'est que ça, c'est un bel outil pour confronter le religieux en nous. On est tous, je le répète souvent à l'Assemblée, hein, c'est Tim Keller qui, je pense, qui l'a formulé comme ça, il dit « Par nature, par défaut, nous sommes tous des êtres religieux. Notre mode de fonctionnement, par défaut, c'est d'être religieux. » Dans le sens péjoratif du terme, être religieux, c'est il y a un sens très noble, hein, c'est croire en Dieu, servir Dieu, mais dans le sens péjoratif, dans le sens qu'on veut performer, on veut s'assurer qu'on a fait notre checklist puis qu'on est des bons petits religieux. Et puis, le livre des Proverbes est intéressant parce que lorsque tu lis régulièrement, tu es confronté avec des principes de sagesse. Et comme on va le voir, ce ne sont pas des promesses. Donc, tu essaies de faire la sagesse, puis là, des fois, ça ne donne pas les résultats que tu veux, puis tu es confronté à toi-même, puis il faut que tu gardes une belle attitude. Je trouve que c'est un des beaux livres qui nous confronte avec ce côté-là très religieux où on devient chrétien. Et puis, on se dit, OK, là, je vais apprendre la recette, puis quand je vais faire la recette, c'est sûr que ça va fonctionner. À tous les coups, ça va fonctionner. Fait que le premier ingrédient dans ma recette, c'est que je me lève le matin, je fais mon culte personnel. J'ai mis l'ingrédient principal, ma journée va bien se passer. Puis comme je dis souvent, hein, tu sors de ton lieu secret, tu te frappes le gros orteil, puis tu te fâches après la première personne qui passe. Là, tu réalises, OK, ça ne marche pas pantoute, cette affaire-là. La recette n'a pas fonctionné, l'omelette n'a pas levé, n'a pas prise, tu sais. Donc, ça te confronte à ça. La même chose pour nos enfants. Un des plus grands pièges pour les enfants des foyers chrétiens, c'est de devenir des êtres très, très, très religieux. Parce qu'ils nous regardent aller, ils regardent le monde, puis si on n'est pas parfait, mais des chrétiens qui essayons de bien faire, ils regardent le monde, puis à un certain moment donné, ils commencent à allumer, ils commencent à dire, « OK, ça, c'est une vie difficile, ça, c'est la vie de mes parents. » Je vois que leur vie se tient. Puis même s'ils sont rebelles, ils vont regarder et vont dire « ça se tient, ça, ils avancent ». Puis là, puis ça devient une formule, cette affaire-là. Et il y a vraiment un piège énorme pour les enfants de chrétiens de ne pas saisir vraiment que tout ça, c'est le fruit de la grâce. C'est une œuvre de grâce, une œuvre de grâce de la part de Dieu en nous. Et donc, de ne pas garder l'Évangile au centre de tout ça. Mais le livre des Proverbes nous apprend ces sentences-là, ces principes-là, où je vais les mettre en œuvre, puis tout devrait bien se passer, et tout ne se passe pas bien. Puis là, j'ai la possibilité de revenir avec mon enfant, puis de dire, regarde, celui qui marche selon la sagesse, c'est celui qui marche selon la sagesse, même quand la sauce ne poigne pas, même quand l'omelette ne prend pas, parce que je le fais, parce que j'honore Dieu, je crains Dieu. Ce n'est pas important pour moi que chaque fois que je fais le bien, ça me rapporte. Je suis juste en train de faire le bien. Parce que je crains Dieu, parce que j'aime Dieu. Donc, c'est un livre super pratique, super utile, très, très concret pour nous. C'est un beau livre, comme Alexandre l'a mis dans les notes à la fin, un beau livre à étudier en famille, avec les enfants. Ça fait adoucir le négatif, Carmen. Oui, dans un sens, on peut dire, dans le sens que ça nous ramène les yeux vers Dieu. Puis ça nous donne un principe général. Fait que des fois, ta journée n'a pas bien été, tu vas lire les proverbes, tu dis... La sagesse en général se vit, fait que demain ça devrait aller mieux si je respecte ces principes-là. Je devrais vivre avec ça. Donc, on est dans vos notes. Là, cette fois-ci, j'ai votre copie. Le thème du livre des Proverbes. La véritable sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Elle est nécessaire afin de vivre une vie intègre en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que, je pense qu'on a un micro qui est disponible pour circuler. Est-ce que quelqu'un sait où est le micro? Oui, merci. Oh, c'est François, le préposé du micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me parler de la crainte de l'Éternel dans le contexte du livre des Proverbes? Lorsqu'on dit que la sagesse commence, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. De quoi on parle, la crainte de l'Éternel? Est-ce que j'ai un brave? Je vois plein de gens ici qui ont la réponse sur le bout des lèvres, fait que je peux vous désigner. Tiens, Claude. Oh, Bertrand, tu viens de sauver M. Lapointe. C'est quoi la crainte de l'Éternel dans ce contexte-là?
Moi, je dirais que Dieu est tellement grand que même dans mon cœur, je dois avoir un immense respect pour tous ses attributs. Je suis un grain de sable à comparer à lui. Ça fait que pour moi, craindre Dieu, c'est... Je voudrais pas avoir à l'affronter là, méchamment, si on peut dire.
C'est très bien dit. Merci, Bertrand. Des fois, je le dis comme ceci, c'est être lucide. Craindre l'Éternel, c'est être lucide. Celui qui ne craint pas l'Éternel, c'est un insensé. ou c'est quelqu'un qui n'a pas été informé sur la personne de Dieu, quand tu quand arrives à l'aéroport puis que tu arrives au poste douanier, si tu montes pas patte blanche, si tu n'es pas honnête, si tu sais, c'est que tu es un insensé. C'est que tu n'es pas lucide. Tu essaies de jouer un jeu. Mais Dieu, c'est pas le douanier, c'est le régisseur de l'univers. Et donc, la crainte de l'Éternel, c'est être lucide, constamment lucide. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une réponse?
Mais en fait, moi, je disais, c'est plus de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, bien, tu es auprès de lui. Fait que t'es baigné dans la présence de Dieu.
Fait que concrètement, ça veut dire que je vais marcher avec lui, puis je vais prendre la mesure de qui est Dieu. Dans son amour, hein? Donc, évidemment, pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, quand il entend le mot crainte, lui, il pense à peur, tu sais. Mais nous, on va penser plus à un respect. C'est juste que si on dit toujours le respect, bien, des fois, tu sais, ça sonne dans notre oreille contemporaine, « Respecte-moi, je vais te respecter. » Non, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est le respect que tu as devant un policier qui sort son arme à feu parce qu'il pense que ton parapluie, c'est une carabine. Ton parapluie, tu vas le déposer par terre. Ça m'est arrivé l'été dernier. Je suis en train de marcher dans le parc Michel Chartrand. Je voyais des voitures de police, c'était bizarre. J'ai dit, as-tu marché là, pas marché ce matin? Je ne sais pas. Fait que j'ai commencé en me disant, dès que je croise un policier, je vais savoir si ma marche s'arrête ici. Et puis, plus loin dans le sentier, dans le sous-bois, il y avait une moto assez au loin, une moto de police. Puis là, je voyais un policier qui était comme en train de fouiller dans tout ça. Puis il pleuvait un peu cette journée-là. Fait que j'avais mon parapluie dans les mains. Il est un parapluie court. Ça peut avoir de l'air d'un 12 tronçonné. fait que le policier est au loin. Il dit, « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? » Je dis, « Je m'en viens prendre une marche. » Il dit, « Je pense que ce n'est pas une bonne journée. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? » J'ai dit, « C'est mon parapluie. » Il a répété, « Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? » J'ai dit, « C'est mon parapluie. » Puis je l'ai déposé par terre. Il dit, « Je m'en viens vous voir. » Je me suis assuré qu'avant qu'il approche de moi, mon parapluie soit par terre. Vous comprenez? Tout s'est bien passé. J'ai quitté le parc. Le monsieur était très gentil avec moi. J'ai pas dit « Respecte-moi, je vais te respecter. » Vous comprenez?
Non.
Bon, c'est ça. Fait que la crainte de l'Éternel, c'est la lucidité devant Dieu qui induit dans notre cœur vraiment un saint respect de la personne de Dieu. Je suis un grain de sable, comme a dit Bertrand, et puis j'apprends à marcher avec lui comme ça, en étant conscient qui est Dieu. Oui. Juste une seconde, Carmen. Juste une petite seconde.
Moi, j'ai pour mon dire que je... On est pêcheurs.
Oui.
Et puis, Dieu, c'est lui qui est plus haut, c'est pas nous.
Absolument, c'est très bien dit. Donc, on est pêcheurs. Quand je réalise que je suis pêcheur puis que Dieu est Dieu, j'apprends la crainte de l'Éternel. C'est pas une peur terrifiée, c'est un saint respect. Une fois que j'ai connu que je suis son fils, une fois que je sais que je suis dans sa famille. Donc, la véritable sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Elle est nécessaire afin de vivre une vie intègre en accord avec la volonté de Dieu. Ça va m'amener à toujours chercher à honorer Dieu, toujours chercher à honorer sa parole, parce que j'ai du respect, j'ai une crainte de lui. La majorité des proverbes ont été écrits quand? Ont été écrits par le roi Salomon, donc entre 970 et 930 avant Jésus-Christ. Donc il y a des mentions d'autres proverbes aussi, la majorité sont attribuées à Salomon. Il y a eu d'autres contributeurs qui ont participé à quelques proverbes, et puis... comme il y a eu des proverbes qui ont été ajoutés après, on fait une distinction entre l'auteur de chacun des proverbes puis le rédacteur. Qui a mis tout ça ensemble? Ça s'est passé un peu après, puisqu'il y a des proverbes qui sont attribués à une période plus tardive. D'accord? Donc, on a un rédacteur ou un éditeur qui a rassemblé ça dans un livre, qui est le livre des proverbes. Ça va? Donc, les auteurs, comme j'ai mentionné, auteur principal, c'est Salomon. C'est assez ironique, n'est-ce pas? Parce que, de toute évidence, ce n'est pas un roi qui a toujours été sage. Donc, lorsqu'il a perdu la crainte de l'Éternel, il a perdu sa sagesse aussi. Salomon est une des meilleures illustrations de ça. Dieu lui avait donné d'être un roi sage, mais lorsqu'il a cessé de craindre Dieu, il a perdu sa sagesse. On ne connaît pas la fin de la vie de Salomon, on ne sait pas comment ça s'est terminé, mais de toute évidence, lorsqu'il a commencé à servir d'autres dieux, à travers les alliances qu'il faisait en épousant les filles d'autres rois qui servaient d'autres dieux. Elles désiraient avoir un temple pour leur dieu. Et donc, il a commencé à servir ces dieux-là. Et de toute évidence, il a perdu la sagesse à ce moment-là, parce qu'il a arrêté de craindre l'Éternel. Mais Salomon est un des auteurs principaux. Le livre des rois, dans 1 Rois 4:32, nous mentionne qu'au cours de sa vie, il a prononcé 3000 sentences et composé 5000 cantiques. Donc, plusieurs de ces sentences-là, ce sont des proverbes. On les retrouve à l'intérieur du livre des proverbes. C'est quoi la structure du livre? Le livre a une introduction et ensuite, c'est un petit peu difficile à suivre. D'accord? Comme j'ai mentionné, les proverbes, c'est des courtes sentences. Une phrase, des fois deux phrases. Des fois, on va avoir un petit paragraphe. Donc, c'est un petit peu difficile de suivre la structure du livre lui-même. Pourtant, celui qui a fait l'édition du livre, qui a rassemblé tous les proverbes, a fait un travail quand même pour qu'il y ait une certaine structure à l'intérieur de ça. On trouve l'introduction qui nous aide à comprendre quelle sorte de littérature on va rencontrer. Donc, le chapitre 1, les versets 1 à 7, nous donnent le titre puis nous aident à comprendre c'est quoi la sagesse selon Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Ensuite de ça, on a les discours de sagesse, qui est les chapitres 1 jusqu'au chapitre 9. Ensuite de ça, on a les sentences de Salomon, chapitre 10 au chapitre 22. On a des proverbes de sagesse. On a d'autres proverbes de Salomon. Puis ensuite de ça, on a d'autres auteurs, Parole d'Agur, de Lemuel. Et puis on a peut-être le proverbe le plus connu, n'est-ce pas, le proverbe 31, celui qui dépeint la femme vertueuse, c'est vraiment intéressant parce que là, on trouve la femme sage, pratique, concrète, qui craint Dieu. C'est une très, très belle incarnation. Et c'est intéressant de remarquer que la sagesse est dépeinte comme une femme à l'intérieur du livre des Proverbes. C'est vraiment intéressant. Comment on interprète le livre des Proverbes? Là, ça, c'est un défi. C'est quoi la plus grande erreur qui est faite avec le livre des Proverbes, l'erreur la plus commune? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui sait quelle est l'erreur la plus commune qu'on fait avec le livre des Proverbes? Non? On prend les proverbes pour... Oui?
Je dirais peut-être l'interpréter textuellement, tirer un verset de son contexte. Quoi que c'est difficile de trouver un contexte souvent dans les proverbes. Mais je pense que de juste garrocher des versets comme ça, tirés des proverbes, c'est peut-être pas l'idée du siècle.
Ouais. Ben, oui, ce que j'ajouterais à ça, c'est surtout lorsque on les prend pour des promesses. On prend les proverbes pour des promesses. Donc, on prend un verset, il est effectivement hors de son contexte parce qu'on le sort du livre des proverbes. Le livre des proverbes, c'est pas un livre de promesses, c'est un livre de sagesse. Et il y a vraiment une distinction entre les deux. Et puis, on prend ça, puis on va juste prendre une déclaration de sagesse, puis on va en faire une promesse. Puis on se dit, Dieu m'a promis ça. Ça va se réaliser absolument. Évidemment, celle qui est utilisée le plus, c'est celle sur l'éducation des enfants. Hein. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas une promesse. C'est un principe de sagesse qui se réalise généralement. Qui se réalise généralement, même avec nos enfants qui s'éloignent de Dieu, bien souvent, ils reviennent à Dieu plus tard. D'accord? Mais je vais aller ailleurs si je veux des promesses pour mes enfants. C'est un livre de sagesse. Donc ça, c'est une erreur super commune. Je prends le passage, je le sors de son contexte, je le sors d'un livre de sagesse, puis j'en fais une promesse. Ça serait quoi la différence entre la notion de sagesse et de promesse? Bien, si c'est une promesse, il va falloir que Dieu l'accomplisse. Moi, je n'accomplis pas toutes mes promesses. Je suis un pécheur, vous aussi. On essaie d'accomplir nos promesses, mais Dieu lui accomplit toutes ses promesses. Et donc, si tous les proverbes sont des promesses, on vient de faire Dieu menteur. Comprenez? Je viens de faire Dieu menteur, parce qu'ils ne vont pas tous s'accomplir. Dans les notes, Alexandre donne l'exemple, il dit, le proverbe qui dit que si celui qui creuse un trou va tomber dedans. Bien, si chaque fois que je creuse un trou et je ne tombe pas dedans, je fais Dieu menteur parce que c'était une promesse, on est mal pris. C'était pas ça du tout la leçon qu'il fallait apprendre. C'était même pas « creuse pas des trous ». D'accord? On va le voir ensemble un petit peu plus loin. Donc, c'est pas un livre de promesses. Pardon?
C'est un danger de lire les proverbes ensemble. C'est
pas du tout. Je vais répéter votre question. Le livre, en fait, c'est toujours un danger de lire la parole de Dieu sans comprendre ce qu'elle est. C'est ça le danger. Donc, si je suis en train de lire le livre des Proverbes, je vais apprendre la sagesse. Mais je ne vais pas prendre le livre des Proverbes comme si c'était des promesses. Je vais apprendre le principe que je vais tirer de ça. D'accord? Donc, il n'y a aucun danger à lire ça. Et il y a toujours un danger de prendre la parole de Dieu puis la sortir de son contexte. Je veux dire, l'exemple la plus horrible, c'est Hitler. Hitler citait les Écritures. D'accord? Vous comprenez? Donc, tu peux sortir les Écritures de son contexte. Il n'y a pas de danger à lire le livre des Proverbes. Il y a un danger si je les sors de leur contexte. C'est pour ça qu'on fait un survol de l'Ancien Testament, un survol du Nouveau Testament. C'est pour apprendre les différents genres littéraires et comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ces Écritures-là, dans ce genre littéraire-là, quelle fonction cela doit avoir dans nos vies. Et le livre des Proverbes fait partie de cette section-là, des livres de la sagesse. Donc, c'est des principes de sagesse que je vais retrouver de ça. C'est quoi les Proverbes? Dans l'ensemble des Écritures, on retrouve plusieurs vérités absolues sur la personne de Dieu, le monde, l'homme. Ces vérités-là sont des absolues, elles sont non négociables. Les Proverbes, ce n'est pas des absolus. Des fois, dans les Proverbes, il y a des absolus, mais les Proverbes, en général, ce ne sont pas des absolus. Donc, une définition, si vous voulez la prendre en note, je ne sais pas si vous l'avez dans vos notes, je vous donne une définition de ce que c'est un Proverbe. Ce sont des principes généraux tirés des observations qui peuvent être faits de la création par ceux qui craignent Dieu. Je vais vous répéter ça. Que sont les Proverbes? Ce sont des principes généraux tirés des observations qui peuvent être faites de la création par ceux qui craignent Dieu. Donc, celui qui craint Dieu et qui observe la vie en général aurait pu écrire des Proverbes. Puis, je veux dire, vous le faites dans votre famille, vous regardez la vie, puis à un moment donné, vous enseignez à vos enfants un proverbe maison. Vous observez des choses sur la vie. C'est avec des cents qu'on fait une pièce? Bon. Hein? C'est un proverbe de sagesse. C'est pas un proverbe biblique, mais c'est un proverbe de sagesse. C'est avec des cents qu'on fait une pièce. T'enseignes ça à tes enfants. T'observes la vie, puis tu dis, apprends à économiser, apprends à sauver tout ce que tu peux sauver. Gaspille pas, traite pas l'argent comme si c'était rien. Tout a de la valeur, puis sois sage avec ton argent. Principe de sagesse. C'est un proverbe. C'est avec des cents qu'on fait une pièce. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Ce sont des principes généraux tirés des observations qui peuvent être faites de la création par ceux qui craignent Dieu. Et donc, dans le livre des Proverbes, j'ai des observations faites par des hommes sages qu'ils ont mis par écrit, inspirées par Dieu. Mais c'est des choses que je peux observer dans la vie en général. Et c'est pour ça que ça résonne beaucoup en nous. Quand je lis les Proverbes, je dis, ça fait du sens. Aujourd'hui, je pourrais l'appliquer au travail. Ça m'aiderait dans mes relations aujourd'hui. Ouais, ça m'aiderait à gérer mes finances. Ça m'aiderait à m'occuper de mon temps. Et c'est un bon principe dans les conflits. C'est très, très, très pratique. Mais ce sont des principes généraux, donc des choses pratiques qu'on peut observer à partir du moment où on craint Dieu. Si je ne crains pas Dieu, je pourrais avoir toutes sortes d'autres principes. Hein? C'est quoi, au plus fort la poche? Là, je suis avec les gros proverbes québécois. Hein? Au plus fort la poche, c'est pas un principe chrétien. Mais si tu observes la vie en général, c'est le plus fort qui ramasse tout. D'accord? Mais je ne dirais pas que c'est un bon principe chrétien. Parce que Dieu garderait tout pour lui. Il ne se serait pas offert un sacrifice pour nous. Donc, ce sont des principes généraux tirés des observations qui peuvent être faites de la création par ceux qui craignent Dieu. Et donc, ce ne sont pas toujours des absolus. L'exemple qu'on donnait tantôt vient du Proverbe 26, verset 27. « Celui qui creuse une fosse y tombe. » Et la pierre revient sur celui qui la roule. Ce n'est pas un absolu. D'accord? Quand j'étais en train de lire ça, puis je me préparais, je voyais comme une mauvaise comédie, là, où tu vois quelqu'un qui creuse un trou, puis tu sais, un peu le jour de la marmotte, là, il retombe dans le trou à chaque fois. Bien, ce n'est pas un absolu. Tu creuses un trou, tu ne vas pas tomber dedans nécessairement. Mais il y a un risque. Tu as fait un trou. Bien, celui qui creuse une fosse pour enterrer son adversaire, ça se peut que ça se tourne contre lui. Et donc, ce n'est pas un absolu. On dit quoi? On dit « crache en l'air, ça va te retomber dessus ». C'est un petit peu la même idée, d'accord? C'est juste dit avec un peu plus de classe. Mais c'est ça l'idée. Donc, ce n'est pas un absolu. Mais il y a des absolus dans les proverbes, on va le voir. Mais je dois apprendre à discerner quand est-ce que je suis devant un absolu puis quand est-ce que je ne suis pas devant un absolu. Et donc, c'est un principe général. Effectivement, si tu fais du mal, ça se peut que tu ne payes pas, mon ami. Puis souvent, les gens payent pas. Et la réalité, c'est que si ça fait assez longtemps que vous êtes sur cette terre puis vous suivez les médias, c'est surprenant de voir combien de criminels réussissent pas à passer à travers toute leur vie en faisant des crimes. Des fois, ils se font attraper dans leurs 65 ans, dans leurs 70 ans, puis ils rentrent en prison, puis ils finissent leur vie en prison. Puis je peux être cynique puis dire, ouais, on sait, ils s'en sortent. Non, mais si ça fait assez longtemps que tu lis l'actualité, là, les Vito Rizzuto, puis non, ils n'ont pas comme... C'est pas la plus belle fin, ces histoires-là. Donc, c'est généralement vrai. Si tu creuses une fosse, tu vas tomber dedans. Ça va se tourner contre toi. Tu cherches à faire le mal, ça va se tourner contre toi. Mais ce n'est pas un absolu. Donc, dans un sens, si je les prends comme un absolu, les proverbes ne sont pas toujours vrais dans le sens absolu. Ça va se réaliser absolument. Pas toujours. Mais il y en a certains qui le sont. Par exemple, Proverbe 16:1 dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est en train de dire « Fais des projets, propose des choses, à la fin, ce qui va s'accomplir, c'est ce que Dieu va bien vouloir permettre. » Et ça, c'est un absolu. Il n'y a pas une fois dans l'histoire de l'univers où il y a quelqu'un qui a réussi à faire une passe-passe à Dieu. Comme Dieu ne l'avait pas vu venir, celle-là, tu sais. Il n'y en a pas de ça. C'est un absolu. C'est un absolu. Tout ce qui se passe, même les choses mauvaises, sont à tout le moins permises par l'Éternel. Même le mal qui arrive dans le monde, je dois dealer avec ça quand je deviens chrétien. Quand je découvre un Dieu souverain, je dois dire, OK, Dieu permet des choses mauvaises. Il faut le mettre dans la sagesse, oui. Oui. Merci, François. Donc ça, c'est un absolu. Moi, je fais des plans, je fais des projets, et ce qui va se réaliser, c'est ce que Dieu va permettre. Donc, dans les proverbes, il y a plusieurs des déclarations qui sont des absolus. C'est pas que c'est une promesse, c'est une information qui est toujours vraie. La sagesse commence avec la crainte de l'Éternel. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Et donc, je peux lire des livres humanistes où je vois de la sagesse, mais si je fouille comme il faut, il y a un moment où ça déraille si l'auteur n'a pas la crainte de Dieu. Il y a un moment où ça va dérailler. Fait qu'on lit toutes sortes de choses, on regarde toutes sortes de religions qui vont sur la terre, puis on dit « Ah, il y a quelque chose de sage ici, c'est intéressant, il y a quelque chose de sage là, puis c'est vrai. » Puis des fois, ça nous confond, là, on dit « Mais dans le fond, il y a de la sagesse partout. » Bien, oui, dans un sens, tu sais, tout le monde peut comprendre que si tu ne barres pas ta porte, ça se peut que le voleur rentre chez vous plus facilement, tu sais. Fait qu'on peut observer des choses, tout le monde. Mais si je n'ai pas la crainte de l'Éternel, il y a un moment où la sagesse va dérailler. C'est un absolu. La sagesse, ça commence par la crainte de Dieu. Autrement, ça va dérailler. C'est un absolu. Donc, dans les proverbes, j'ai des choses qui sont absolues, puis j'ai des choses qui ne le sont pas. C'est juste une espèce de principe général. Est-ce que vous avez une question sur ça ou c'est assez clair? Ça va? Ça va? Puis je veux apprendre quand je suis en train de les lire. Je pense qu'il y a une question, François. C'est une question?
Moi, j'ai pour mon dire que le côté négatif des choses qu'il ne faut jamais les prendre.
Tu veux parler un petit peu plus fort?
Le côté négatif des choses, il ne faut jamais les prendre. Il faut toujours prendre la serre. Oui, il est devant toi, le côté négatif, mais il faut le mettre en sagesse pour ne pas accepter ce négatif-là, parce que c'est le malin qui est là.
Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire.
Alors, c'est pas bon, ça.
Je comprends ce que tu veux dire. Donc, on veut pas...
Dieu est plus haut, puis c'est lui qui est extra, c'est lui qui est plus haut que tout.
Ouais.
Nous autres, on n'est rien à côté de lui.
Oui, merci, Carmen. Si je le mets dans le contexte du livre des Proverbes, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des choses difficiles qui viennent dans la vie, sont là, sont réelles. Mais si je fais confiance à Dieu, puis je marche en craignant Dieu, en respectant Dieu, je vais réussir à continuer à faire le bien. Je ne vais pas me décourager. Je vais continuer à avancer. Merci, Carmen. Donc, quelques règles d'interprétation pour comprendre les proverbes. une des choses que vous avez vues la semaine dernière avec Basile, il y a dans la poésie hébraïque, c'est un genre littéraire en soi, puis il y a différents... vous avez tous étudié un peu la poésie en français, on apprend des principes sur la poésie, comment c'est écrit, comment c'est structuré, il y a différents genres de poèmes. Bien, la sagesse hébraïque est écrite sous la forme de sous une forme poétique. Et donc, il va y avoir comme des... J'essaie de me rappeler le terme. C'est pas des mécanismes, mais des... En tout cas, des pratiques qui vont se répéter. Et puis, une de celles-là, c'est les parallélismes. Donc, dans les proverbes, il y en a constamment des parallélismes. Constamment, vous allez avoir un proverbe qui va déclarer soit une chose, puis répéter la même chose autrement, soit une chose et son contraire. Donc, ça va être une thèse, puis l'antithèse. Ça va se contredire, mais finalement, pour confirmer la même réalité. Fait que j'apprends à lire les proverbes en remarquant ça, en observant ces choses-là, en les détectant. Il y a des parallélismes dedans. Je veux identifier comme la figure de style, c'est ça le mot que je cherchais, la figure de style qui est utilisée. Par exemple, souvent il y a des métaphores ou des comparaisons. Dans le proverbe 11 au verset 1, on lit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » C'est comme une espèce d'antithèse, si on peut dire, puis c'est une image. Si je fausse une balance, le contexte, c'est que si tu venais m'acheter de la viande puis je faussais un peu ma balance, bien, je pouvais faire que ça avait l'air plus lourd que c'était en réalité. Je truquais ma balance. Fait que tu viens m'acheter pour une pièce de steak haché, mais je t'en vends juste pour 50 cents parce que j'ai faussé ma balance. Puis là, je te dis, ça coûte 1 $. Puis là, tu pars avec ça. Bon, mais ça, c'est en horreur à l'Éternel. Mais le poids qui est juste, c'est ça qui va lui plaire. Donc, j'ai une image qui dit, parle avec vérité. Parle avec vérité, sois intègre. Puis c'est fait à travers une forme d'antithèse qui est ici. C'est pas la balance elle-même qui est en horreur à l'Éternel, mais c'est le cœur qui est en train de tromper, qui est en train de manipuler, qui est en train de ne pas parler selon la vérité. Le cœur qui n'est pas juste et qui cherche à tromper ou voler son prochain, c'est lui qui est en horreur à l'Éternel. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est le cœur qui parle selon la vérité. Celui qui ose dire la vérité. Un des moyens très, très utiles de savoir si j'ai compris un proverbe, c'est de le résumer dans mes mots. Fait que tu lis un proverbe, puis tu essaies de le résumer dans tes propres mots. Puis tu vas voir, là tu vas dire, OK, ça marche ou ça marche pas? Mon résumé, est-ce qu'il confirme ce qui est écrit là ou il contredit ce qui est écrit là? Puis après, le proverbe peut rester dans ma mémoire tel qu'il est écrit dans les Écritures. Mais si je le formule en d'autres mots, c'est là souvent que je vais savoir. On fait ça constamment, hein, quand on veut communiquer avec quelqu'un. Vous savez, on va faire du reflet lorsqu'on parle avec quelqu'un. Tu es en train de dialoguer avec quelqu'un, puis tu vas dire, je peux-tu t'arrêter un instant? Si je t'ai bien compris, voici ce que tu es en train de me dire. On fait ça quand on veut bien communiquer, mais tu fais ça avec le livre des Proverbes. Si j'ai bien compris, Seigneur, voici ce que tu es en train de dire à travers ça. Puis moi-même, en formulant ça, je suis en mesure de prendre juste un petit peu de distance pour dire, OK, je pense que ça fit. Je pense que je l'ai bien compris, le proverbe. Et c'est une très belle manière de voir si je l'ai compris. Je vais le résumer dans une phrase. Après ça, je peux chercher dans les Écritures des exemples d'application. Souvent, lorsqu'on enseigne la parole, même dans la prédication, souvent on va prendre des exemples d'application du texte à travers les Écritures. Et donc, une des manières de voir si j'ai bien compris le proverbe, c'est d'aller voir un endroit ailleurs dans les Écritures où ça s'est mis en œuvre, ça s'est appliqué. Par exemple, si je croyais que toutes les promesses pour le juste tous les proverbes qui parlent du juste étaient des promesses. Mais j'irai ailleurs dans les Écritures, puis là, j'arriverai sur le livre de Job, qui est dans la section du livre des livres de sagesse. Puis là, je dirais, OK, j'ai un homme sage qui craint Dieu, puis si c'était des promesses, j'ai un problème. Maintenant, à la fin de sa vie, ça va se réaliser. Mais je veux dire, il a souffert, Job. Il a souffert. Et donc, je peux prendre un proverbe, puis voir qu'est-ce que j'en comprends, puis chercher son application ailleurs dans les Écritures, dans la vie de différents personnages à travers les Écritures, ou ailleurs lorsque je vais trouver un écho à ce proverbe-là. Je vais trouver ce principe-là qui revient dans les paroles de Jésus, par exemple. C'est intéressant. Je trouve que les évangiles nous aident beaucoup à voir si on a bien compris l'Ancien Testament et donc les proverbes aussi. Lorsqu'on voit, pas Jésus qui réinterprète, mais Jésus qui nous aide à comprendre l'Ancien Testament, lorsqu'on le voit l'appliquer dans sa propre vie. Donc, je vais chercher un exemple à l'intérieur des Écritures. Puis enfin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher comment ce proverbe-là s'applique dans ma vie. Je vais chercher à l'appliquer dans la journée. Fait qu'une des choses que tu veux faire, mettons qu'après aujourd'hui, tu dis, OK, je vais lire un proverbe par jour pendant un mois. Assure-toi de prendre un des versets, un des proverbes du jour, puis vraiment comme prendre plus de temps pour le méditer. D'abord, tu ne peux pas vraiment méditer un chapitre au complet des proverbes, là, à part quelques-uns qui sont différents. Mais il y a tellement de sentences, il y a tellement d'idées là que ce n'est pas possible vraiment de méditer tout un chapitre. Mais tu prends celui qui t'interpelle le plus. Ou des fois, on lit un chapitre, puis tu as l'impression que l'éditeur a décidé de mettre comme quatre versets qui disent à peu près la même chose. Traite le même sujet, ça revient comme à quatre fois à l'intérieur des 20-30 versets. Ça revient. Puis là, c'est comme si tu étais en train de lire, puis c'est comme s'il sortait, il ressortait. Puis là, tu dis, OK, il y en a un de ces quatre-là qui vraiment me frappe, puis je commence à méditer ça. Puis là, je dis, comment ça va s'appliquer aujourd'hui? Je me projette dans ma tête au travail, relation de travail, relation interpersonnelle à la maison, comment je vais me comporter face à l'effort à faire au travail, comment je vais gérer mon temps aujourd'hui, une situation difficile que j'ai vécue, quelque chose qui m'a contrarié, quelque chose avec mon tempérament. Un des beaux exercices à faire avec le livre des Proverbes, c'est quand tu lis à un moment donné, tu vois qu'il y a des personnages types dans les Proverbes. Il y a l'insensé, il y a le sage, il y a le colérique. Mais moi, j'ai fait une étude juste sur le colérique parce que je trouvais que j'étais un gars qui se mettait beaucoup en colère. Puis c'est vraiment instructif parce que là, tu te dis, OK, le colérique, finalement, c'est l'insensé. Tu sais. Puis c'est bon qu'il y ait des conséquences de ses gestes des fois, que Dieu ne l'épargne pas des effets de sa colère. Tu te mets en colère, tu te comportes en insensé, il y a des conséquences à ça. Personne ne te sauve. Bravo, tu vas devenir un petit peu plus sage. Donc, une des manières d'étudier le livre des Proverbes, c'est d'identifier ces quelques personnages-là qu'on voit, puis survoler tout. Donc, pendant un mois, je fais juste prendre en note tous les versets qui se rapportent au colérique, à l'insensé, à l'homme sage. Puis je fais juste toutes les prendre en note. Puis après ça, j'essaie de faire une espèce de résumé dans mes mots, une synthèse, un résumé dans mes mots à moi. Là, je me projette dans ma vie au quotidien. Comment est-ce que ça va s'appliquer dans ma vie, ce proverbe-là? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Vous l'avez déjà fait avec des livres? Des proverbes? Vous pouvez faire ça. Pour le prochain mois, vous dites, je vais lire des proverbes, puis vous dites, ouais, des fois, je trouve que je parle trop. La langue. Allez étudier tout ce qu'il y a sur la langue, sur parler dans le livre des proverbes. Si vous dites, mon épouse m'a dit, je vous fais une petite confession, mon épouse m'a dit... J'ai même pas dit que j'avais noté quand elle me l'avait dit. Elle me dit, la semaine dernière, elle dit, « T'es chialeux. » Ah, ça m'a insulté, là. Puis c'était vraiment comme, c'était un élan, ça venait du cœur. « T'es chialeux. » Ah, ça m'a insulté. Puis là, j'ai rien dit, mais j'étais vraiment frustré. Là, je suis parti avec ça, puis heureusement, j'ai rien dit. Fait que c'est resté dans ma tête, j'ai dit. Là, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, « OK, est-ce que je suis chialeux? » Là, ça m'a frappé. Dans les journées qui ont suivi, je parlais à quelqu'un, puis après, j'entendais Esther qui me disait, « Hey, t'es vraiment chialeux. Hein? T'es pas en cours. » Vous savez, c'est quoi chialeux? Non? Ça, chialeux, c'est critiqueux. Toujours en train de critiquer. Tu vois pas les choses positives. T'es pas encourageant. C'est comme tout est négatif, puis tu le dis aux gens, puis tu te plains. Les gens veulent bien faire, mais non, c'est jamais bien. T'sais. Ça m'a frappé. J'étais en train de parler à quelqu'un, puis là, j'entendais Esther qui me disait, « Hey, t'es chialeux. » Je me souviens plus d'une autre circonstance qui est arrivée. Ah oui, c'est ça. Encore une fois. Là, j'ai raccroché avec la personne, puis là j'étais confondu. Là, j'ai envoyé un petit mémo, j'ai dit, hey, je te demande pardon. Là, j'ai raconté tout ça. J'ai dit, ma femme m'a dit que j'étais chialeux. Puis là, ça, je viens de le voir, je l'ai encore fait. Tu sais. Bon, mais si tu es un chialeux, c'est ta langue. La langue, elle parle de ce qu'il y a dans le cœur, mais c'est ta langue. Peut-être que tu es un chialeux comme moi. Tu peux faire une étude pendant un mois dans le livre des Proverbes sur la langue. Puis là, tu vas te rendre compte, oh, OK. Puis là, Dieu nous confond. Ça a l'air, il faudrait que je refasse l'étude, là. Mais je suis moins chialeux qu'avant, mais je suis encore chialeux, d'accord? Donc, c'est super pratique, c'est très, très concret, le livre des Proverbes. Et donc, je peux tout simplement décider de faire une étude comme ça. Je vais chercher à appliquer les proverbes à ma vie. Une des bonnes manières de le faire, c'est avec nos enfants. Prendre la conversation avec les enfants, dire comment ça s'applique ça, dans notre vie, ce verset-là? Comment on peut appliquer ça dans la vie? Puis comme je disais tout à l'heure, on va le voir en terminant, on revient à Jésus, mais quand on fait cette conversation-là avec nos enfants, souvent, l'enfant va être confronté, comme mon épouse a fait lorsqu'elle m'a dit « t'es chialeux ». Je suis comme confronté avec moi. Je pars avec ça. Elle a fait une déclaration sur moi. C'est vrai ou c'est faux, cette affaire-là? Puis là, ça me confronte, ça me monte mon cœur. Fait que quand j'ouvre un proverbe avec un enfant, puis que là, il dit « ouais, mais je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas prêt à faire ça. L'autre, il m'a fait du mal. » Puis moi, je décide que je veux me venger. Les proverbes ne vont pas vraiment dans ce sens-là, vous allez voir. Puis là, il est confronté à son cœur. Là, j'ai l'opportunité, bien, je peux faire un petit religieux. Je peux dire, c'est ça que la Bible dit, si tu ne le fais pas, tu vas avoir des conséquences. Je suis en train de faire un petit religieux. Mais je peux aller vers l'Évangile. Puis je peux lui dire, tu vois, la sagesse nous aide à voir que, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Ce qui est mauvais, c'est ce qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'on rentre, c'est ce qui sort. Et ce qui sort, ça vient du cœur. Donc, ça vient de ton cœur. C'est en train de te parler de ton cœur. Est-ce que tu vois que tu as une nature pécheresse et tu as besoin de la grâce de Dieu? Donc, je suis parti avec un verset dans les Proverbes. Puis je suis en train de remonter jusqu'à la racine. Je m'en vais vers l'Évangile. Je m'en vais vers Christ. Puis là, je peux littéralement continuer avec Jésus. Là. C'est ça qu'on voit à la fin des notes. Le seul être humain qui a vécu parfaitement les Proverbes, c'est Christ. C'est lui qui a été parfaitement obéissant parce qu'il est la sagesse. Ce matin, on commence la nouvelle série dans Jean. Je reviens sur le Logos, la parole. Christ est la sagesse même de Dieu. Il est Dieu sage. Puis on l'a vu de son vivant. Puis là, je peux prêcher ça à mon enfant puis dire, c'est pour ça que tu as besoin de la grâce de Dieu, que Dieu te pardonne tes péchés parce qu'il y en a juste un qui a été parfaitement sage, c'est Jésus. Est-ce que tu veux qu'il te pardonne puis qu'il t'aide après à grandir dans sa sagesse? Et donc, je peux me servir des proverbes pour aller vers l'Évangile et ne pas produire des petits religieux avec mes enfants. La sagesse qui vient de Dieu. Les 9 premiers, les 2 derniers chapitres du livre des Proverbes nous présentent certains discours de la sagesse sur certains thèmes particuliers. Donc, on va regarder quelques thèmes en terminant. On retrouve particulièrement dans les 4 premiers chapitres plusieurs instructions sur ce qu'est la sagesse et l'importance de la rechercher. Regardons maintenant certains passages qui nous éclaireront sur quelle devrait être notre attitude par rapport à la sagesse de Dieu. Évidemment, on l'a mentionné, le commencement de la sagesse, c'est craindre l'Éternel. C'est avoir un saint respect pour Dieu. Dans notre prière du 24-7, ceux qui prient avec nous une fois par semaine dans la prière du 24-7, la première requête, c'est « Seigneur, enseigne à tes enfants à marcher dans l'humilité ». Enseigne-moi qui je suis. Aide-moi à me rappeler qui je suis devant toi. Je suis totalement dépendant de toi. Je commence ma journée avec ça. Quand je dis que je commence ma journée avec l'Évangile, c'est ça. Je commence en disant, Seigneur, je suis un pécheur. Je n'arriverai pas à être Jésus, le sage parfait aujourd'hui. Probablement pas, mais c'est ça que je veux poursuivre. J'ai besoin de ta grâce parce que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Voyez-vous, je commence avec ça. Je commence parce que la sagesse commence avec la crainte de l'Éternel. Je dépose un regard lucide sur la personne de Dieu, sur moi-même, sur le monde autour de moi. Je dis, toi seul est Dieu, moi je suis pécheur, puis je suis entouré de pécheurs. C'est juste par ta grâce si ça se passe bien aujourd'hui, Seigneur. Je vais m'appliquer à marcher selon tes principes. Dieu donne la sagesse. Dieu veut nous donner sa sagesse. Le livre des Proverbes nous protège contre le cynisme. Vous savez, c'est quoi le cynisme? Quelqu'un qui est cynique? C'est quelqu'un qui regarde la vie avec une sorte de lucidité, mais l'amertume dans le cœur. Une phrase cynique, c'est très, très concrète. Tu sais, les gens qui, lorsqu'ils cherchent les clés, ils disent « Ah, ça arrive toujours quand tu cherches quelque chose. » Toujours quand tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Probablement, oui, parce que si tu ne le cherchais pas, tu n'avais peut-être pas le trouvé, mais vous comprenez? Fait que c'est quelqu'un qui regarde la vie, fait des observations sur la vie, mais avec l'amertume dans le cœur. Le livre des Proverbes nous protège du cynisme. Parce que lorsque tu crains l'Éternel, il n'y a pas la place pour le cynisme. C'était le combat de Job. Le combat de Job, c'est qu'il dit, « J'ai appliqué ta sagesse, je te crains, je te connais, puis là, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. » Puis Job luttait avec le cynisme. C'est ça qui se passait dans son cœur. Puis Dieu lui a juste donné une nouvelle révélation de sa grandeur, de sa personne. Il a juste ramené Job dans la sagesse en disant, « On va remettre les choses en perspective, bonhomme. T'es un grain de sable, effectivement, et je suis Dieu. » Le livre des Proverbes nous protège du cynisme parce qu'on voit que Dieu veut nous former dans la sagesse. Dieu veut nous faire grandir dans la sagesse. On voit dans le livre des Proverbes les récompenses de la sagesse. Donc, ce n'est pas des promesses, mais il y a des récompenses. Si tu appliques les livres des Proverbes, il va y avoir des bénédictions qui vont venir avec. C'est des principes généraux. Donc, c'est généralement vrai. Et ça se produit généralement. Puis quand vous regardez des gens qui sont intègres, mais qui réussissent dans leur vie, généralement, c'est des gens qui appliquent des principes de sagesse. Ceux qui réussissent de manière extraordinaire, comme Bill Gates, vont dire, « Ben, je suis chanceux. » J'écoutais Bill Gates, puis il dit, « Je suis un homme extrêmement chanceux. » Il ne marche pas dans la crainte de Dieu, moi je dirais extrêmement béni. Mais si vous regardez sa vie, vous allez dire, « OK, oui, dans la providence de Dieu, cet homme-là a eu des opportunités exceptionnelles pour être là où il est. » Mais si vous regardez l'ensemble de sa vie, vous allez dire, « Ah, il a fait beaucoup de choses aussi avec sagesse. » C'est intéressant parce qu'on regarde la fin de sa vie, tout ce qu'il fait au niveau de la philanthropie, tout ce qu'il donne pour aider son prochain. Puis effectivement, c'est un homme qui a de la sagesse. Donc, quand vous regardez des gens autour de vous, des couples autour de vous, des familles qui semblent aller bien, généralement, c'est qu'ils marchent avec des principes de sagesse. Quand vous voyez des chrétiens qui semblent aller bien, ils ont la crainte de Dieu, puis ils appliquent la sagesse. Parce que généralement, c'est ça qui va se passer. Maintenant, on vit dans un monde déchu, fait que même les gens sages vont attraper un cancer, même les gens sages vont avoir un accident de voiture terrible dans leur vie. Ça fait partie d'un monde déchu. Mais généralement, ils vont avoir les récompenses qui viennent avec la sagesse. Enfin, je termine avec ceci. Jésus-Christ demeure le seul moyen pour nous de connaître Dieu. La poursuite de la sagesse sans rencontrer la personne de Christ ne me permettra jamais de connaître Dieu. Donc, c'est quand je parle, nous, on vit dans une culture qui est très, très, très multiculturelle, puis les Québécois, ceux qui arrivent d'autres pays, vous découvrez les Québécois, c'est des gens qui créent leur propre religion, leur propre croyance, ils prennent des choses un peu partout. Dans leur vision très humaniste des choses, ils sont eux-mêmes. Le Québécois est la personne la plus sage sur la terre à ses propres yeux, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, il cherche dans la sagesse, il va se composer sa religion, tout le kit. Et puis il va avoir quelque chose. Puis ceux qui réussissent assez bien, il y a une espèce de croyance là, qui sont allés puiser partout, dans le bouddhisme, dans le Coran, dans la Bible, un peu partout, tout ça. Mais ça ne les amènera pas à connaître Dieu, ça. Parce que j'ai besoin de connaître une personne, Jésus-Christ. Mais la sagesse peut m'aider à faire des choses, ça peut m'aider à réaliser que je suis pécheur. Ça peut m'aider à réaliser que je ne suis pas parfait. Ça peut m'aider à découvrir la crainte de Dieu, à dire qu'il y a plus que ça encore. Mais je ne serai jamais vraiment sage tant que je ne connaîtrai pas Jésus-Christ. Et je vous dirais une des plus belles preuves de ça. Si vous avez le privilège de connaître des Juifs qui sont croyants, pratiquants, puis qui refusent de croire en Jésus-Christ. Je l'ai mentionné quelques fois dernièrement parce que j'apprends à le découvrir depuis quelques années. Il y a un chroniqueur politique qui est à droite. Là, fait que si vous n'êtes pas à droite, il va vous choquer les oreilles, ça va vous écorcher vif. Mais Ben Shapiro, c'est un gars qui est bien intéressant. C'est un juif pratiquant. Tu l'écoutes parler, puis il y a plein d'affaires. Il parle comme un chrétien souvent au niveau de la sagesse. Puis il y a des amis qui sont chrétiens. Et donc, il a entendu l'Évangile à plusieurs reprises. On lui a parlé de Christ à plusieurs reprises. Mais il ne reconnaît pas en Jésus le Messie qu'il attend encore, selon l'Ancien Testament. Et donc, à la fin de la journée, il ne possède pas la vraie sagesse, parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Et lorsqu'on le suit assez longtemps, à un moment donné, on découvre, on dit, « Ah, OK, je vois que tu ne connais pas Christ. » Je vois que ça, tu ne l'as pas saisi. Je vois que ça, tu ne l'as pas saisi. Donc, la seule manière de connaître vraiment la sagesse, c'est à travers la personne de Christ lui-même, parce qu'il est la sagesse de Dieu. Il est la personne de Dieu qui vient s'incarner. Qu'est-ce qu'on fait avec le livre des Proverbes? On cherche la sagesse de tout notre cœur. On commence avec la crainte de l'Éternel. On cherche la sagesse de tout notre cœur. On s'applique à connaître Dieu à travers la personne de Christ. Il est l'incarnation parfaite de la sagesse. Il est Dieu fait homme. On cherche à le démontrer nous-mêmes, dans notre vie, à le mettre en application. Et puis, je me sens de ça, vous pouvez évangéliser avec des proverbes. Mémorisez quelques proverbes, puis faites juste les déposer comme ça dans une conversation. Puis vous allez avoir l'opportunité de dire, les gens vont vous demander, ça vient d'où ça? Ça vient-tu de la Bible? Oui. Mais ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse, c'est une sagesse. Les promesses, il faut se tourner vers Christ pour être sûr qu'elles vont se réaliser. Puis là, je peux m'en aller vers l'Évangile. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière, puis on poursuit la semaine prochaine. Père éternel, merci. Merci pour ta sagesse, Père. Merci surtout de nous faire connaître ta sagesse à travers ce beau livre des Proverbes, Seigneur. Et Seigneur, nous avons connu, nous savons que Jésus-Christ est la sagesse. Il est la parole de Dieu. Seigneur, on te prie de nous aider à marcher dans la crainte de ton Saint-Nom, avec un regard lucide. En Jésus, on trouve la grâce pour voir le monde tel qu'il est, se voir tel que nous sommes, reconnaître ta grandeur, notre faiblesse, Seigneur, et ne pas perdre courage. Ne pas être découragé parce que tu nous as aimés en Jésus, et tu veux maintenant former en nous la sagesse de Christ. Tu veux former le caractère de Christ en nous. Merci Seigneur pour ta parole, elle est tellement précieuse. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.